Dans cette période de doute où la violence des chocs efface la subtilité de ce sport, la question posée est simple. Comment allons-nous éviter que des accidents mortels ne se reproduisent sur les terrains de rugby? La mort de mon fils Nicolas n'a rien de normal. La vie est précieuse. Elle ne doit pas être jouée.
La vie ne doit pas être jouée. L'homme qui parle ainsi, Philippe Chauvin, a perdu son fils, Nicolas. Espoir du Stade français, Nicolas était l'un des quatre jeunes joueurs décédés en France depuis un an pour des raisons diverses, sur un terrain de rugby ou après un match de rugby. Le rugby permet aux enfants de devenir des hommes et aux hommes de rester des enfants, proclamait l'emblématique capitaine du 15 de France Jean-Pierre Rive. Désormais, on peut hélas aussi dire qu'il menace la vie de ses enfants.
Et on a des commotions cérébrales à partir de 12 ans, ce qui quand même est un peu inquiétant. Nous avons dû arrêter déjà plusieurs joueurs et les interdire de rugby puisqu'ils avaient fait plusieurs commotions à 15 ans.
Après la mort de Nicolas Chauvin, une rencontre a eu lieu à Paris entre des représentants de World Rugby, l'organisme qui gère le rugby mondial, de la Fédération française et de la Ligue nationale qui a en charge le professionnalisme dans l'Hexagone. Chacun s'accorde naturellement pour dire qu'il faut travailler sur les lois du jeu pour améliorer la sécurité des joueurs, mais l'indispensable unanimité internationale semble lointaine. Une nouvelle réunion est prévue prochainement. En attendant, la FFR perd des licenciés, notamment dans les catégories jeunes.
C'est quoi la règle d'or ?
Ne pas faire mal aux copains.
Je ne me fais pas mal et je ne fais pas mal aux copains.
Pour ce reportage, Fanny Le Chevestrier a rencontré des médecins, des éducateurs et naturellement des joueurs et leurs parents. Leur passion pour ce jeu demeure, mais ils réfléchissent tous à son évolution.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Prenez la première sortie sur rue du Général Carré de Bellemare.
Voilà donc arrivé à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Nous allons ce dimanche matin à la rencontre d'Emmanuel Bélanger et de son fils Victor. Il y a un peu plus d'un an, Victor a frôlé la mort lors d'un match amateur de Fédéral 3. Tous deux nous reçoivent chez eux, dans leur appartement.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va, vous ?
Oui. Bonjour.
Le petit frère.
Bonjour.
Et la grande sœur, 26.
Bonjour, tout le monde est là ?
Ouais.
Je me souviens de absolument tout. Je prends plusieurs coups sur la tête, je finis le match tranquillement. Et donc là, je sors, je rentre au vestiaire. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je me pose dans les vestiaires et là, je commence à vomir. Et sur le chemin de l'hôpital, je commence à tomber dans le coma. Et j'arrive devant l'hôpital et je m'écroule.
Quand son coéquipier est venu me chercher, il m'a dit « il a mal à la tête, il est en train de vomir ». Je savais que c'était un trauma. Donc je suis allée le chercher dans les douches. Donc un quart d'heure pour l'emmener à l'hôpital, il était en train de sombrer, donc je le secouais, je le stimulais pour qu'il reste éveillé en fait. Puis en arrivant aux urgences, ben, brancard, déchocage, et puis il a sombré dans le coma aussitôt.
3 semaines de coma, ensuite il y a eu à peu près une semaine et demie de phase de réveil. De jour en jour, je réalisais ce qui m'est arrivé, et que j'avais plus de crâne aussi. M'enlever une partie du crâne pour évacuer le sang et l'hématome. Donc quand je me suis réveillé, ouais, ça m'a fait un peu bizarre.
C'était pronostic vital engagé pendant 3 semaines. Donc, on continue à se battre. Ça a été ça tout le temps.
Un an plus tard, un peu plus, on en est où ?
On en est qu'il me reste encore quelques séquelles, notamment au cognitif et sur mon côté gauche, parce que j'étais paralysé dans ma phase de réveil, j'étais paralysé de tout mon côté gauche. Le bras et la jambe, surtout j'ai une sensibilité complètement différente d'avant. On peut pas me toucher le côté gauche en fait, c'est impossible. Et donc un an plus tard, j'ai repris les cours en décembre, et donc là je finis ma 4e année.
Est-ce qu'on se sent différent ?
Dans certaines situations, ouais, je me sens complètement différent d'avant. Parce que je suis plus fragile, je dois faire beaucoup plus attention. Et dans d'autres, quand je suis avec mes amis, je me sens comme avant.
Avant cet accident, vous vous êtes dit, le rugby, c'est dangereux, j'ai peur.
Non. C'est dangereux, oui. Ça, je savais. Maintenant, c'est sa passion. Ça fait 10 ans qu'il en fait. Il adore ça. Je pouvais pas lui interdire, quoi. Même quand je le voyais revenir cassé, nez de travers, l'oreille en chou-fleur. Voilà, non, je lui ai jamais interdit, quoi. Non, jamais. Là, aujourd'hui, oui, il ne peut plus en faire. Et c'est bien le drame, c'est celui-là. C'est qu'il peut, il ne peut plus pratiquer sa passion, quoi.
C'était le seul moment où je pouvais penser à rien, juste jouer, me défouler, me retrouver avec mes potes. Aujourd'hui, au présent, ça me manque. J'aimerais en faire, mais je sais que c'est pas possible. Et donc là, j'essaie de reprendre un peu de sport, d'aller un peu à la salle, mais ça rien de comparable. C'est 10 fois plus chiant.
Comment l'éviter ? J'en sais rien, je sais pas aujourd'hui. C'est une grande discussion qui se passe au niveau des clubs, de la Fédé, de la Ligue, etc. Mais c'est plus la prévention qui est importante. C'est que les joueurs, entraîneurs, dirigeants, parents, sachent réagir, après empêcher... les sortir de ce monde de gladiateurs et les pousser un petit peu à se regarder, à s'écouter.
Je vois la tête de Victor qui fronce les sourcils.
Ouais, non, parce t'as pas fait de rugby. Donc, c'est pour ça. Tant qu'on n'a pas fait de rugby, on ne peut pas savoir.
Et moi, je réagis en tant que parent, maman. Voilà, c'est mon approche à moi. Donc je comprends qu'ils ne soient pas d'accord, puisque c'est la passion, ils y vont à fond, quoi. Et moi, je suis là pour regarder comment il va, ce qui se passe, et puis peut-être aider d'autres familles, d'autres parents à pas avoir peur. Ça sert à rien d'avoir peur.
Mon petit frère fait du rugby, 10 ans. J'avoue que j'ai pensé à l'en dissuader, mais il aime ça aussi, donc je peux pas lui interdire ce que moi j'aime, donc c'est pas possible.
Puis cet après-midi, vous savez où on va cet après-midi, tous, en famille ?
Au bord d'un terrain ?
Bah ouais, on va voir le match des seniors.
Ça vous fait rien ? Quand vous êtes au bord du terrain ?
Si, ça me fait, quand j'entends certains chocs. Ouais. Ça, oui.
La commotion cérébrale, chaque week-end, on en parle, on la voit au bord des terrains de rugby aujourd'hui. On va donc aller voir de quoi il en retourne exactement en rendant visite au neurochirurgien Philippe Deck. On le retrouve à l'École nationale des arts et métiers dans le 13e arrondissement de Paris, tout près de la place d'Italie.
Ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on s'intéresse d'un peu plus près à la traumatologie en conditions sportives. Alors une commotion cérébrale, c'est une blessure du cerveau. Voilà. C'est une blessure du cerveau, c'est-à-dire qu'à la suite d'un coup, une énergie qui est transmise à la tête, eh bien le cerveau, bizarrement, dysfonctionne. Il ne marche pas très bien. Donc il peut ne plus marcher du tout, c'est la perte de connaissance. Bon, mais ça c'est très bref. Ou sinon, bah, il peut avoir des tas de petits problèmes, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des troubles de l'équilibre, on peut avoir des troubles de la vue, et tout ça en général se résout assez rapidement. C'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de fréquent dans la vie générale, pas seulement dans le sport, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont pris des portes sur la tête, on est tombé par terre, on a fait du ski, on s'est cassé la figure, on a vu quelques étoiles, on n'était pas bien pendant une heure ou deux, puis petit à petit c'est rentré dans l'ordre. C'est ça la commotion cérébrale. Quand j'ai commencé à m'en occuper, on parlait d'une dizaine de commotions cérébrales dans le championnat du top 14, c'est la première ligue du championnat. Et puis on a commencé à organiser tout ça et on a vu que les chiffres étaient nettement plus importants. Parce qu'au départ, c'était le folklore, hein. C'était presque une médaille. Hein.
On se vantait, les joueurs se vantaient d'avoir fait un KO, quoi, quasiment.
Oui, on mettait un petit coup d'éponge magique, comme on dit, et puis ça repartait. On voit ça, si on regarde les bandes dessinées comme Astérix, on voit ça très bien. Astérix, en Grande-Bretagne, il fait une partie de rugby, tout le folklore est là. Et en fait, non, on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose qui était sérieux, qu'il fallait prendre sérieusement, donc on s'est mis à faire le diagnostic de ces événements-là. Il y a eu des drames qui ont été récents, qui ont été des vraies catastrophes. Il n'y en avait pas eu depuis un moment. Il ne faut pas imaginer que dans les années 80 ou dans les années 70, on faisait un petit rugby à la papa tout gentil. C'était aussi un sport rude, hein. C'était aussi un sport de collision. Le problème, c'est que pour essayer de trouver des solutions, on parle par exemple du plaquage à deux, en quelque sorte légiférer là-dedans. Il faut légiférer la règle du sport. Donc il faut que tout le monde se mette d'accord, que ça passe en commission. Ouais, c'est comme l'Assemblée nationale chez nous, c'est le même bazar. Donc ça prend du temps. Il faut être certain que modifier une règle ne va pas induire d'autres comportements qui vont peut-être être plus délétères, parce que les personnes passent leur temps à essayer de contourner les règles. C'est la vie qui est comme ça. Il faut faire quelque chose. Tout le monde en est complètement conscient, tout le monde est complètement convaincu, mais il faut faire les bonnes choses qui n'induisent pas des effets délétères.
Attendre que World Rugby légifère et que les acteurs internationaux se mettent enfin d'accord pour tenter de changer les choses, tout le monde aujourd'hui en France n'est pas de cet avis. Direction Toulouse.
Chaque saison, le nombre de blessés augmente. Dans le top 14, l'élite du rugby, les commotions cérébrales ont été multipliées par 3 entre 2013 et 2017, passant de 19 à 63 cas.
Bonjour.
Bonjour Fanny Lechevestrier.
C'est sous une bonne pluie qu'on arrive à la tombée de la nuit au stade d'Alain Coulon, situé pas très loin de la cité de l'espace.
Et vous avez froid, non?
Bah, on s'est trompé d'arrêt de bus.
Pourquoi vous ne l'avez pas dit?
Oh bon non, mais ça a été.
Donc vous voulez voir l'arbitre?
Enchanté.
Bonjour. Ben ça.
Bonjour.
Vous arrivez? Vous n'êtes jamais pas là-haut?
À Paris, il fait grand beau.
D'accord.
Ce que je veux, moi, ce soir, le plaquage à la taille. Ça va être difficile, mais c'est vraiment... On revient sur la règle de la base, c'est le 1 contre 1.
On va assister à un match pas comme les autres. Depuis janvier, la Fédération française du sport universitaire d'Occitanie expérimente de nouvelles règles. Interdiction du double plaquage, plaquage sous la ceinture. L'arbitre de la rencontre, Vincent Mascarin, qui est d'ailleurs en train de les expliquer au capitaine des deux équipes. On a d'un côté UPS Médecine, de l'autre l'école d'ingénieurs agronomes de Purpan.
On n'oublie pas que c'est un match de rugby, avec des améliorations et des changements.
Et vous sanctionnez d'une pénalité ou...
Alors, pas de coup de France, ça sera pénalité. Il ne faut pas se sentir vexé. Parce qu'on peut venir plaquer ici, en fait, c'est pas haut, c'est pas une grosse faute. Mais je vais la sanctionner parce qu'on demande ce que ce soit vraiment du plaquage à la taille. Ça va faire mal le premier coup de sifflet. Et mais après, vous allez voir, vous allez vous y mettre. Et ça va rouler tout seul. Des questions là-dessus?
Non, c'est bon, c'est bon.
Bon, d'accord. Allez les garçons, à de suite.
On est tous ensemble, du début, c'est la fin, pendant 15
minutes,
quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça va
bien
se passer, ce soir. Ça va bien se passer,
ça va aller
mon
souvenir. Allez, Simon.
Allez,
allez.
À l'origine de cette initiative, Albert Sigagna, ancien grand joueur du Stade Toulousain dans les années 80, aujourd'hui responsable de la Fédération française du sport universitaire d'Occitanie.
On a des collègues qui ont été sensibilisés par le fait que, comme on était indépendant et qu'on n'avait pas à rendre des comptes à la FFR, on a dit bon, ben, on n'est pas plus con que les autres, on va essayer de voir si on ne peut pas faire autrement pour qu'il y ait moins de danger quoi, à la sortie. En poussant le raisonnement plus loin, est-ce que le fait de moins défendre ou de donner moins de possibilités à la défense, ça permettrait pas aussi de permettre d'autres possibilités offensives quoi. Aujourd'hui, on en est là, quoi. La dangerosité, est-ce qu'on l'a enlevé ou pas? Je sais pas.
Parce qu'en Angleterre, ils l'ont testé en deuxième division et ils ont arrêté au bout de 36 matchs.
Donc voilà, est-ce qu'on va être efficace par rapport à ça? Bon, on a des retours réguliers, c'est intéressant quand même.
Les retours sont plutôt bons?
Par rapport au jeu, ouais, je pense que ça libère des possibilités aux attaquants. Là, par contre, ils ont plaqué à deux. La dangerosité, c'est que la conséquence de ce qu'on fait depuis pas mal d'années, quoi. À mon avis, après, il ne faut pas raisonner comme un ancien combattant. Mais on a un peu délaissé toutes les prises d'initiative, ouais. Toute l'intelligence quoi, qui faisait la force du rugby français. Et paradoxalement, c'est nos amis britanniques qui ont repris le boulot dans les académies. Et puis, ils font des mecs intelligents, habiles tactiquement, techniquement. Donc, ouais. Après, il faut que les arbitres soient beaucoup plus sévères. Mais déjà, le mec qui plaque à un bras, il faut l'empêcher de jouer, on le fait reposer un paquet de temps. Il va calculer, après, au lieu de mettre un bras, il mettra deux bras. Hein. Donc, après, il y a du plaisir à se faire des passes, il y a du plaisir à se déplacer, il y a du plaisir à marquer. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et ne plus être triste et répéter une leçon, et voilà, et prendre le rugby comme un boulot, quoi. C'est ça, je pense, qui est le plus catastrophique. Quoi. Si je vais au boulot, je pointe, je fais mon match, je pars, je m'entraîne, et voilà. À mon avis, c'est pas ça, le rugby.
Et pour ce match particulier, on a équipé l'arbitre d'un micro pour être au cœur de l'action.
On siffle pas, mais on regarde l'attitude. Allez, deux, à deux, à deux. La première, elle est en avant. On y va. C'est pas un plaquage. En bas. C'est pas un plaquage. On se baisse pas. Attends, il s'est fait mal. À deux, lâchez, lâchez. C'est bon, on peut jouer. Ça commence à devenir un blocage. Non, quand il y a une phase de plaquage, on lâche. On joue pas. Celui qui t'assiste en plaqueur, il vient pas le mettre au sol. Sur un blocage. Un blocage. Et oui, ça devient plus dur. Allez les gars. Non, 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 non. C'est un plaquage offensif, les gars. Lâchez les deux. Je vois. je sanctionne. Après, je laisse jouer maximum. Hein.
Benjamin, joué pilier ce soir.
Julien, joué centre.
Clément, j'ai joué troisième ligne et deuxième ligne.
John, j'ai joué ailier.
Paul, j'ai joué troisième ligne.
C'était compliqué à gérer. Il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés. Enfin, ça a été sanctionné beaucoup de fois. Je pense qu'il va falloir qu'on revoie ça aux entraînements et donner de meilleures précisions aux deux équipes.
Il y a eu des difficultés ouais, à s'y mettre, à réfléchir justement avant de plaquer ou pas.
Ouais, un peu tous, je pensais, surtout sur les plaquages à deux. Sur les plaquages à deux, on a été souvent sanctionnés aujourd'hui parce que voilà, dès qu'on a un coéquipier qui touche l'adversaire, nous on est obligé de se sortir alors que c'était une base du jeu avant ça. Du coup, l'arbitre est obligé de sanctionner plusieurs fois. Il a failli prendre un carton jaune encore, mais bon, on va s'habituer à force.
Ça va mettre peut-être un peu de temps, une saison ou deux, à se mettre en place, à ce que tous les joueurs prennent l'habitude aux entraînements, à écouter l'arbitre, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup plus écouter l'arbitre que ce qu'on avait l'habitude.
Ça change, c'est pas déplaisant, mais c'est vrai qu'il faut revoir la technique individuelle, quoi. Faut vraiment plaquer aux jambes. Et pour ceux qui aiment bien mettre un peu d'agressivité, ben, on prend des fois un peu moins de plaisir, quoi.
On va commencer à adopter un rugby qui va être beaucoup plus aérien, on va prendre beaucoup plus de large et ça sera plus joli à voir. Et je pense aussi à jouer, il y aura plus de vitesse, ça sera plus sympa, il faut juste s'adapter.
Il va falloir faire comprendre à certains qu'il faut réfléchir et pas uniquement regarder la personne en face et lui rentrer dedans. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que d'ici une dizaine d'années, on n'arrive pas à faire des beaux matchs avec des plaquages et des règles comme on a eu là.
Et l'arbitre Vincent Mascarin, qu'en a-t-il pensé? On va le retrouver au chaud dans le vestiaire parce que là, on a eu droit à la pluie vraiment durant tout le match.
Qu'est-ce
qu'elle change, ces nouvelles règles?
Elle change l'attitude des joueurs, l'attitude, le comportement des joueurs. Et je vais m'y mettre moi aussi de l'arbitre parce qu'il faut être plus présent, il faut beaucoup plus parler, il faut prévenir, parce que sanctionner pour sanctionner, aucun intérêt. Le premier match que j'ai fait, un des entraîneurs, il disait on va rejouer comme il y a 25 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on va apprendre le jeu de rugby. Aujourd'hui, c'est plus du jeu, c'est du jeu de rugby, mais d'une autre façon. Est-ce qu'il se dénature pas? Point d'interrogation. C'est le rôle du coach, il va être super important. C'est eux qui vont leur faire apprendre les nouvelles techniques, je vais même presque dire les nouvelles techniques de plaquage, et après la nouvelle technique de conserver le ballon.
C'était
un chouette match.
Ouais, c'était intéressant. Merci.
Ballon bien capté par Jean-Pierre Bastia. Et les Français qui s'organisent sur ce mol. Oh, le joli crochet. Je pense que c'est Donald McDonald qui est resté au sol. Il est KO, hein, pour appeler les soigneurs. Oh, la belle droite de Gérard Chollet. Elle était magnifique, très pure. Bim. Ah oui, joli, plein de menton. Premier regroupement et bim, une droite.
Il y a 40 ans déjà, comme le prouve ce commentaire d'un France-Écosse resté fameux, les joueurs n'étaient pas à l'abri. Mais ce qui relevait du folklore est désormais devenu la norme, et ce ne sont plus tant les mauvais coups qui menacent désormais les joueurs que la répétition de gestes en eux-mêmes traumatisants réalisés à haute vitesse. Le corps médical, et particulièrement dans l'environnement des sportifs, s'en émeut depuis déjà quelques années. Pour Interception, Fanny Lechevestrier est allée rencontrer Jean-Christophe Berlin, responsable médical de l'association du Stade français, le club où jouait Nicolas Chauvin.
Interception sur France Inter.
Jean-Christophe Berlin, on pourrait le présenter un peu comme un lanceur d'alerte, un homme en colère. Cela fait des années qu'il dénonce les dangers du rugby d'aujourd'hui. Il nous reçoit à son cabinet de kiné dans le 16e arrondissement de Paris.
Depuis 10 ans, on tient un registre des blessés. Et effectivement, on a été, nous, je pense, donneurs d'alerte, puisqu'on a toujours dit qu'on voyait de plus en plus de commotions cérébrales. Et on a fait ce constat. Et
dans toutes les catégories d'âge.
Et voilà, et c'est surtout là où ça a de l'intérêt, c'est qu'en fait, ça ne concerne pas que les pros, je dirais même plus que ça concerne plus les jeunes. Et on a des commotions cérébrales à partir de 12 ans, ce qui quand même est un peu inquiétant. Nous avons dû arrêter déjà plusieurs joueurs et les interdire de rugby, puisqu'ils avaient fait plusieurs commotions à 15 ans. Donc ce qui est quand même... ça peut être inquiétant, c'est surtout alertant. Donc on a alerté, j'ai alerté plusieurs fois la Fédération Française de Rugby, et je précise que je n'ai jamais eu de réponse.
Mais votre dernier courrier remonte au 19 décembre dernier, vous avez écrit à la fois à la Fédération et à la fois au ministère des Sports pour alerter encore une fois.
Oui, en fait, les portes sont plutôt fermées à la Fédération Française de Rugby. Je pense qu'ils utilisent une mauvaise voie, qui est le déni, c'est-à-dire de dire non, il ne se passe rien, il n'y a pas plus de morts qu'avant. On peut tout à fait prouver le contraire, et c'est très simple, moi je tiens un registre depuis des années, donc je peux tout à fait le prouver. Et d'autre part, où il y a actuellement des associations sont de parents, de joueurs blessés qui se sont formés et qui vont malheureusement utiliser la justice pour montrer que c'est pas le cas. Et comme les assureurs qui nous assurent depuis des années maintenant ont eux aussi évidemment un constat d'accident, il sera très facile de prouver que les accidents sont graves. Actuellement, il y a beaucoup plus de collisions qu'autrefois, tout le monde le dit. Ce qu'il faut, c'est changer les règles sur la collision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ces joueurs, petits, gros, moyens, grands, ne se rendent plus dedans. C'est comme les autotamponneuses. Les autotamponneuses, vous avez des voitures qui vous rentrent dedans et puis d'autres qui les évitent. Mon autre combat, c'est qu'on change les règles rapidement. Seulement, le vrai problème qui se pose à la Fédération française de rugby, c'est qu'elle n'a jamais fait mener d'enquête en France depuis tout le temps qu'elle existe. Donc on va se présenter à World Rugby bientôt, en fait on n'a rien entre les mains. Si on ne commandite pas des enquêtes, si on ne sait pas ce qui se passe sur son propre territoire, comment peut-on avoir la prétention d'imposer aux Anglais nos voix? C'est impossible, on arrive les mains vides, on arrive en slip je dirais.
Vous y croyez pas à ce symposium de World Rugby pour essayer de modifier, faire avancer le rugby dans le bon sens?
Si, je crois que les anglo-saxons ont entre les mains les cartes, et que eux s'intéressent très sérieusement au sujet, et que c'est les anglo-saxons qui vont nous sortir de là. Mais je regrette que la Fédération française ne soit pas au niveau, et qu'elle ne s'intéresse pas plus à ses amateurs, et à ses enfants en particulier. Comment est-ce possible qu'un sport, qui est donc un sport dangereux, il faut admettre que c'est un sport dangereux, ne soit pas encadré par au moins un véhicule sanitaire au bord du terrain, ce qui n'est jamais le cas en catégorie jeune.
Oui, mais on n'aura jamais des structures médicales autour de tous les terrains chaque week-end.
Si, bien sûr, pourquoi pas. Quand vous avez un combat de boxe, on sait que la boxe est un combat à risque, il n'y a pas un combat de boxe où il n'y a pas un pompier à côté du ring. Hein. Et en automobile, par exemple, ou en vélo, il y a toujours des cordons sanitaires. C'est tout à fait possible, et ça ne coûte pas très cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne coûte pas très cher, d'installer, je pense que ça, la Fédération française ou la Ligue pourrait tout à fait le prendre en charge, d'installer simplement une antenne qui soit là et qui puisse intervenir en moins de 5 minutes, parce que la vérité, c'est de 0 à 5 minutes, c'est là que tout se passe.
Justement, on va aller recueillir le point de vue de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Quand je suis arrivée, j'ai dit à tout le monde ici, il faut qu'on arrive à tendre vers le risque zéro en termes d'accidentologie. Et effectivement, sur des sports où la norme, c'est de se rentrer dedans ou d'aller jusqu'au chaos comme en boxe, où il y a la violence et le choc, et c'est intrinsèque au sport. C'est sûr que c'est difficile d'atteindre ce risque zéro d'accidentologie, mais en tout cas, c'est une volonté qu'on doit avoir tous les jours. Aujourd'hui, on va mettre en place pour la première fois un observatoire de l'accidentologie dans le domaine du sport, mais on veut aller plus loin et regarder vraiment sport par sport pour derrière pouvoir avoir une définition plus précise de ce que peut être un sport à risque, un sport où les caractéristiques de la santé et de la sécurité de la prévention sont mises en jeu, de manière à pouvoir informer les familles, les parents, les pratiquants eux-mêmes. Si on allait déjà vers une présence obligatoire d'un médecin sur ces catégories espoir, voire la catégorie d'avant amateur, ce serait déjà bien, puisque voilà, le temps est compté dans ces cas-là et que l'intervention immédiate est très importante. Derrière, un véhicule sur chaque match, effectivement, ça engendrera des coûts. Donc avoir une réflexion peut-être avec la fédération de rugby, les ligues, et puis aussi les collectivités qui organisent ces types de matchs. Voilà, c'est un enjeu de santé publique, et quand on dit public, voilà, tout le monde est engagé, je pense, dans la même démarche.
Est-ce que c'est entendable, selon vous, quand on vous dit, oui, il y a eu des morts, mais il y a de moins en moins de blessés, de répondre par des statistiques? Ça vous choque ou pas?
Oui, évidemment que ça me choque. Parce que pour moi, quand on vient faire un sport, c'est pas du tout dans l'optique d'y laisser sa vie. Que ça arrive. Oui, il y a des accidents qui arrivent tous les jours. De la même manière qu'on accepte que lorsque on gagne dans une compétition internationale, ça ait un effet extraordinaire sur la société, sur notre sport, sur le nombre de licenciés. Et ça, c'est un truc positif. Il faut aussi qu'on accepte les aspects négatifs ou moins bons du sport et qu'on y travaille activement.
Pour vous, la prise de conscience, elle est enfin là de vouloir modifier tout cela pour que ça ne se reproduise plus?
Non, je pense qu'elle n'est pas encore là. Je crois qu'en plus, là en ce moment dans le rugby, c'est un peu effacé par aussi le fait que l'équipe de France ne performe pas. Maintenant, je ne dis pas que l'action n'est pas entamée. Enfin voilà, il commence vraiment à agir. La Fédération française de rugby s'est engagée à employer 50 cadres fédéraux supplémentaires qui vont aller dans tous les clubs de rugby pour remplacer et former un peu aussi le bénévolat qui heureusement est là pour encadrer les jeunes qui viennent se présenter dans les clubs, mais qui parfois aussi manquent de formation, de connaissance justement de tous ces dangers et peut-être aussi d'un jeu différent qui pourrait permettre qu'il y ait moins de chocs violents sur le terrain. parce que je ne pense pas non plus que les spectateurs soient en demande de telle violence et de tel choc sur le terrain. Je crois que voilà, le but au rugby, c'est d'arriver à mettre la balle derrière la ligne et que les moyens pour y arriver soient les plus judicieux, les plus beaux à voir. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'esthétisme dans des chocs violents et surtout pas du jeu dans des drames.
Ça vous dérange pas d'enlever les chaussures ?
Oui.
Ok, super.
Tout le monde enlève ses chaussures, c'est comme un rituel. Il faut dire aussi que le professeur Sherman reçoit dans son appartement, au milieu de vieux vinyles, de modélisation de cerveau et autres objets précieux venus des quatre coins du monde, c'est assez impressionnant.
Alors, je suis neurologue, je suis un peu spécialiste des commotions, voire vraiment beaucoup, puisque j'en ai vu maintenant plus de 850 commotionnés du sport, essentiellement des athlètes de haut niveau, qui appartiennent au rugby, au football, au judo, à la boxe, au hippisme, essentiellement.
Quel regard vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment dans le domaine du rugby. Entre le moment où j'ai commencé à travailler et le moment où j'en suis là actuellement, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'experts qui se sont penchés sur le problème pour savoir exactement quoi faire, comment prendre en charge les commotions le mieux possible. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais par rapport aux pays anglo-saxons, nous étions très très en retard quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Non seulement nous ne sommes plus en retard, mais nous sommes plutôt à la pointe dans différents sujets, comme le fait d'avoir instauré une consultation à 48 heures pour les athlètes par un neurologue ou un neurochirurgien afin de mettre en place la meilleure prise en charge. Et on s'aperçoit que, enfin moi dans mes chiffres, c'est à peu près 15 à 20% des cas qui peuvent rejouer le week-end prochain. C'est pas énorme non plus, hein. Il y en a quand même plutôt 80% qui vont pas rejouer le week-end d'après. Et il y en a à peu près 40% qui vont rejouer à 15 jours et 40% qui vont rejouer à 3 semaines. On a mis beaucoup de temps à convaincre les joueurs, convaincre les différentes instances, notamment les entraîneurs, que c'était important d'avoir un avis indépendant. Il faut bien former le neurologue ou le neurochirurgien, car beaucoup ne sont pas formés pour prendre en charge les commotions dans le sport, que ce soit eux qui prennent la décision, pour que vraiment la décision soit la meilleure, et pour la santé du joueur, et pour aussi de sa carrière. C'est ça qui est fondamental, il faut arriver à comprendre les deux problématiques.
Vous avez avancé le chiffre de 850 sportifs que vous aviez suivis. Le rugby est vraiment prédominant encore aujourd'hui dans les patients que vous avez ?
Le rugby est prédominant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le premier sport qui a pris en compte le problème des commotions en France, même si aussi le rugby est nettement plus traumatogène que ces autres sports, puisque dans mes chiffres, 45 à 50% des rugbyman pro ont déjà fait une commotion, alors que c'est 30% pour les judokas de très haut niveau et 30% pour les footballeurs de très haut niveau. Actuellement, il y a une prise en compte dans le rugby, en tout cas, de ça. Dans les autres sports, pas encore. Il y a encore beaucoup de sports qui ne sont pas du tout sensibilisés.
Je crois que vous n'êtes pas favorable au port du casque pour empêcher les commotions.
En fait, ce n'est pas forcément que je ne suis pas favorable, c'est que les études n'ont pas montré que ça avait un intérêt majeur pour empêcher la survenue des commotions. Donc si c'est pour mettre un casque, et c'est ce qui se fait la plupart du temps lorsqu'on a une commotion en se disant « le week-end prochain je vais mettre un casque, comme ça je serai mieux protégé », c'est totalement stupide. Et si je mets un casque aussi pour me dire « je suis plus protégé pour aller encore plus fort », c'est aussi stupide.
Donc c'est l'éducation qui prime.
L'éducation, c'est avant tout sortir de l'aire de jeu quand on a une commotion, et ne revenir que quand la commotion a totalement disparu suffisamment après que le cerveau est bien récupéré.
Vous avez souvent déjà dû dire à un sportif « stop, c'est fini maintenant, plus de sport de compétition ».
Heureusement, c'est pas souvent, mais sur les 850, je pense qu'il y en a une quinzaine. Voilà. Mais je pense malheureusement que ça va être de plus en plus. Maintenant, encore une fois, le rugby est professionnel depuis 1996. Donc la pratique, comme on la pratique actuellement, elle est quand même assez récente. Le problème, c'est que dans toute fédération, on s'intéresse aux joueurs actifs, mais pas aux joueurs à la retraite. Ça n'intéresse personne.
On va aller voir du coup vos patients. On parle de patients ou pas ?
Ah bien sûr, c'est des patients sportifs. Ils sont là parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont fait une commotion, parce qu'ils ont envie de savoir quand ils peuvent reprendre. En moyenne, c'est tous les lundis que je vois des commotionnés du sport. Et j'en ai entre 15 et 20 tous les lundis qui viennent de toute la France.
7, 3, 2, 8. 4, 7, 2, 8. 7, 3, 6 et 5. 8, 5, 7, 6.
Je m'appelle Nima Gomaria. Je travaille avec le docteur Sherman depuis le mois d'octobre 2018. Le but de cet exercice est de donner une mesure à ses capacités d'attention et de concentration. Et ça consiste en la chose suivante. Quand le patient met le casque de réalité virtuelle sur les yeux, il se retrouve dans un espace en trois dimensions avec 8 balles identiques de couleur jaune.
Ouais.
Sur ces 8 balles, il va y en avoir 4 qui vont se mettre en surveillance.
Celles qu'on voyait, voilà, nous en rouge.
C'est
qui
ça.
S'allumait.
Pendant environ une seconde. Et le principe, c'est que le patient se souvienne de ces quatre balles en rouge, parce qu'elles vont se remettre en jaune et se mettre à évoluer de façon aléatoire. Et une fois que les balles sont stabilisées après 8 secondes, elles sont numérotées. Et le principe, c'est que le patient donne les numéros correspondants aux 4 balles.
Mais 4, ça paraît... le commun des mortels, ça paraît impossible. On peut arriver à en suivre une, mais 4.
Ça donne une idée de l'évolution, de la concentration et de l'attention du sujet.
Alors, maintenant, on va passer au test d'équilibre. Donc, tu vas mettre tes pieds joints, s'il te plaît. Voilà, nickel. Et tu vas mettre tes mains sur tes hanches, voilà.
Donc là, on assiste à la deuxième série du test pour voir s'il est apte à reprendre la compétition. Donc là, le joueur a les yeux un casque de réalité virtuelle. Il fait des exercices d'équilibre. Il doit rester le plus équilibré possible en voyant un terrain qui penche.
Je te tiens. Ok, nickel. C'est bon, je vais te rasseoir. Est-ce que tu peux me rappeler les 5 images que tu as vues tout à l'heure ?
Pizza, bière, crayon... Cahier, pomme.
Ok. Je vais te défaire le casque.
Tout est fait ou pas encore ?
Ouais, tout est fait.
C'est fini ?
C'est fini.
Les différents tests sont maintenant finis. Le joueur et le neurologue vont s'entretenir dans l'intimité du bureau. C'est là que le joueur va savoir s'il peut, oui ou non, reprendre la compétition. Nous, on va l'attendre dans le petit salon. Minutes plus tard, le verdict est tombé pour notre joueur de rugby professionnel qu'on appellera Pierre pour des questions d'anonymat.
Là, c'est 3 mois d'arrêt. 3 mois. Donc, voilà.
Tu fais le coup, là ?
Oui, après, bon, je l'avais déjà eu au téléphone, donc je savais plus ou moins ce qu'il allait me dire. Donc, c'est pour notre santé aussi, donc voilà, il faut savoir l'accepter.
Sur cette dernière commotion, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
C'est un coup de genou quand je suis plaqué, en fait, et je suis au sol, et il y a le défenseur qui arrive et qui, sans faire exprès, me met un coup à la tête.
Tout de suite, vous vous êtes dit, ça peut être grave ?
Non, parce que j'ai déjà fait pas mal de commotions, donc je savais que là, j'avais pas fait une commotion, mais c'est la sensation que j'ai pu avoir qui était différente. Alors, une peur, non, mais... Surtout la sensation qu'on se dit qu'on ne peut plus être sur le terrain à ce moment-là. Quoi.
Est-ce qu'il y a une prise de conscience, selon vous, des joueurs ? C'est plus tabou de parler de commotion aujourd'hui ou pas ?
Ça commence un peu à se briser, mais c'est vrai que dès qu'on parle commotion, ben voilà, tout le rugby a peur un peu. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut arriver à bien distinguer. Donc c'est pour ça que c'est important de voir des docteurs comme M. Sherman, qui lui, à base de ses tests et des questions qu'il fait, il arrive à vraiment déterminer quand oui ou non il y a eu commotion. Mais c'est vrai que maintenant, le tapage qu'il peut y avoir dessus, ça fait vite peur. On voit pas mal de joueurs qui arrêtent. Donc c'est vrai que c'est une blessure inquiétante. Faut pas rigoler avec ça.
Votre entourage, il vous dit stop ?
Il me dit pas stop encore, mais c'est vrai qu'il... Mais voilà, peut-être prendre plus de temps de repos pour bien récupérer et pour pouvoir jouer encore au rugby.
Mais vous, il y a toujours cette envie de jouer au rugby coûte que coûte.
Ouais, bien sûr, c'est ça qui est pervers aussi, c'est que une fois que le coup est pris et qu'on a récupéré, ben on a l'impression qu'on est très bien, donc c'est ça qui est dur. Voilà, c'est pas comme si on avait un genou où on pouvait plus courir ou quoi. Là, on est en pleine possession de ses moyens. Le seul problème, c'est que la tête, elle est fatiguée, donc c'est ça qui est un peu compliqué.
Trois mois d'arrêt pour cet ancien international, toujours professionnel, c'est une véritable peine. Et pour le club qui l'emploie, certainement un souci. Au moins, son intégrité physique sera-t-elle finalement préservée ?
Il y a des jours où c'est moins facile que d'autres de parler de rugby. Vous le savez, le jeune Nicolas Chauvin, 19 ans, espoir du Stade français, est décédé hier au CHU Pellegrin de Bordeaux.
Nathan Soyeux avait 23 ans. Ce jeune rugbyman amateur est décédé dimanche dernier des suites d'un choc reçu lors d'un match.
Une profonde émotion et des hommages après la mort d'un jeune joueur de rugby d'Aurillac, Louis Fachprovski, 21 ans.
Sur ce dossier sensible de la sécurité des joueurs de rugby, nous avons, en toute logique, sollicité l'avis du président de la Fédération française. Sans nous opposer à un refus catégorique, la Fédération a botté en touche, promettant à Fanny Lechevestrier une réponse plus tard. Pour la fin de son reportage, elle s'est tournée vers la base, l'école de rugby, mais aussi... vers les parents de jeunes joueurs, des parents qui, malgré leur inquiétude, laissent leurs enfants assouvir leur passion.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Signe de l'inquiétude, pour la première fois, des parents de joueurs et de joueuses de rugby viennent de créer une fédération pour se faire entendre des instances et tenter de peser sur les décisions. On retrouve son président, Laurent Tison, dans un café à la sortie du travail.
Je suis père de trois garçons rugbymen, deux jumeaux qui sont en U16, qui ont bientôt 15 ans, et un grand qui, lui, maintenant fait des études et qui a 20 ans, qui a joué longtemps aussi en compétition. Les parents de joueurs ne sont pas assez représentés dans les débats courants sur la sécurité, sur l'éthique, sur l'avenir du rugby et sur, même si tout le monde s'en accorde, l'avenir que peuvent représenter les jeunes pour le rugby en France. Ses parents ont voulu tirer des sonnettes d'alarme qui n'ont pas été entendues, et les accidents récents nous font dire qu'il faut qu'on soit plus fort dans nos revendications.
Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous avez peur quand vous voyez vos enfants jouer au rugby?
Oui, on n'est pas rassurés. On les accompagne pour s'assurer qu'ils jouent avec leur tête. Oui, on est en tous les cas très vigilants, même si on pensait que les choses n'étaient pas corrigeables, bien on arrêterait le rugby pour eux. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On pense qu'il y a encore des choses à faire pour que leur sécurité soit assurée.
On disait avant, régulièrement, l'école de rugby, c'est l'école de la vie. C'est révolu, ça, ou pas?
Non, nous, on est convaincus que c'est pas révolu. C'est pour ça que notre fédération de parents, de joueurs et de joueuses de rugby s'appelle Rugby pour la vie. C'est vraiment l'école de la vie. Normalement, c'est l'école du respect, de l'éthique, de l'engagement, des valeurs qui sont utiles pour toute la vie. Dès lors qu'on arrive dans les années de compétition, les cadets, Goderman et au-delà, là, les jeunes sont encore très adolescents, physiquement pas complètement formés, et on les soumet déjà à un rythme qui ressemble, à s'y méprendre, au rythme des professionnels. Je pense que c'est surtout ça le déclencheur, c'est que nous, parents, avons vu que peut-être l'encadrement de ce sport à cet âge charnière n'est pas optimal. Nous, ce qu'on a vu dans nos équipes, les équipes des quelques initiateurs de cette fédération de parents de joueurs et de joueuses de rugby, c'est quand même pas mal d'accidents depuis le début de l'année. D'accidents, pour l'instant, mineurs, mais il y a pas mal de casses. Et j'ai jamais vu ça dans les années précédentes. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a un effort immédiat à faire sur l'éthique, le comportement des entraîneurs, des bancs, des parents.
Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez par exemple encore des entraîneurs qui disent « Allez, on va les défoncer ». Enfin, ça c'est le discours qu'on a été bercé à ce discours-là. Est-ce que ça vous l'entendez encore au bord des terrains, dans les vestiaires?
Mais on l'entend quasiment tout le temps. Je pense que ça peut changer très très vite. Et d'ailleurs, une des initiatives, c'est lorsque nous irons en match, nous aimerions préparer ce match avec les parents, avec les entraîneurs de l'autre club, avec les arbitres lors du match, de manière à ce que chacun fasse une sorte de... Et à la troisième mi-temps, on ferait la mi-temps zéro pour juste relire les règles du fair play. Il y a des moments où les règles ne sont pas respectées et il n'y a pas de sanctions propres qui sont prises. Pourquoi? Parce que la sanction, c'est compliqué. On ne veut pas pénaliser une équipe ou pénaliser un joueur parce qu'il a été, il a été trop violent. Bien, désolé, mais aussi bien au niveau des pros que des juniors, il faut qu'elles soient appliquées, qu'elles soient appliquées avec beaucoup de sévérité. On respecte un professeur à l'école quand il est droit sur ses lignes. On respectera un arbitre quand il sera droit sur sa ligne d'arbitrage.
Le rugby, devenu professionnel en 1995, a vu les gabarits de ses joueurs exploser. Avec son 1m80 et ses 85 kilos, la star de la fin des années 70, Jean-Pierre Rive, fait bien pâle figure face à des joueurs actuels comme Arthur Ituria, 1m98 pour 107 kilos. Dans le rugby amateur, l'évolution est déjà en cours.
Consigne plaquage en dessous de la ceinture.
Une manière de rassurer les parents. En un an, les écoles de rugby ont perdu 10% de licenciés dans les catégories de jeunes joueurs.
Oui, Sandrine, c'est Fanny Lechevestrier de France Inter. On est arrivé sur le parking. D'accord, alors le club house, on prend le panneau pour aller sur le terrain, la rugby club de Pontoise, on rentre par là? Ah, bon bah ok, on fait ça, à tout de suite alors. Donc là on est à Pontoise, dans le Val d'Oise, on va aller voir, suivre les entraînements du Racing Club de l'agglomération de Cergy. Pontoise, c'est un club assez ancien dans la région parisienne, à ses côtés. Il s'est reconstruit au début des années 2010 grâce à sa formation et on va voir qu'il pratique désormais bien le jeu d'évitement.
C'est cette porte ?
Voilà.
L'autre ?
La troisième.
Merci. Bonjour. Bonjour. Fanny Le Chevestrier.
Sandrine Clarie.
Vous allez bien ? Merci beaucoup de nous accueillir.
Mais vous voilà arrivés.
Là, les enfants, ils vont arriver vers 17h15 pour un début d'entraînement à 17h30.
Donc là, on va voir quoi ? Retour à l'essence du rugby aujourd'hui ?
Exactement, c'est ça. Les enfants, ils sont là pour s'amuser, pour prendre du plaisir.
C'est du rugby à toucher, là, qu'on va voir ?
Oui. Alors,
donc
ça, c'est
le rugby à toucher, pas le droit au plaquage.
Non.
Le défenseur doit toucher de deux mains, c'est ça, le porteur du ballon. Et lui, il a 2 secondes pour le libérer, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement, il a 2 secondes pour faire sa passe. Tous nos entraînements commencent par un toucher à 2 secondes. En fait, l'expérience, elle a quand même commencé en Ile-de-France il y a 5 ans. Donc d'abord avec les moins de 14, en proposant du jeu à effectif réduit et du jeu total. Voilà, donc pendant 2 ans, ça s'est mis en place.
Ça a été fallu compliqué.
Oui, parce que oui, il a fallu convaincre.
C'est
pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas non plus les éducateurs ce qu'ils avaient envie. Enfin voilà, il a fallu vraiment prendre le bâton de pèlerin et puis aller convaincre les gens. Voilà. Au bout de 2-3 ans, on a vraiment vu les bienfaits. Et donc du coup ça a été étendu aussi sur les catégories moins de 8, moins de 10, moins de 12. C'est plus d'espace, ça veut dire aussi que tous les enfants sont concernés, il n'y a plus d'enfants qui sont... Parce que quand en moins de 12 ils jouaient à 12 et qu'il n'y en avait que 9 qui étaient concernés, ou voire 8, voilà quoi. Donc du coup là tout le monde est concerné, tout le monde a envie de jouer, ça aide aussi l'effectif réduit, comme c'est du toucher, à faire rentrer les enfants dans l'activité, c'est-à-dire que moi je parle pour les moins de 8, ils ont vraiment la crainte du sol, du copain, du ballon. Sur les U14, les bienfaits sont indéniables. Et puis en même temps, on construit aussi nos jeunes à faire du rugby de mouvement et de l'évitement, parce que ça leur développe leur capacité d'adaptabilité, leur prise d'initiative.
Ils réfléchissent au lieu de foncer tout droit.
Voilà, c'est ça. Je dirais que maintenant, on voit des enfants qui ne courent plus en regardant la pelouse, mais qui ont la tête haute pour essayer justement de trouver des solutions pour que le ballon vive.
Vous parliez d'un changement de discours qu'il avait fallu convaincre. Mm-hmm. Ça change également dans les mots qu'on emploie.
Tout à fait, il faut réapprendre. C'est un changement d'état d'esprit. On aimerait que ce soit terminé, les enfants qui traversent le terrain balle en main. Et puis voilà, ça permet momentanément de gagner, mais un jour ou l'autre, ces enfants, ils vont trouver quelqu'un en face d'eux qui sera physiquement plus fort et qui, ils vont se retrouver dans la difficulté parce qu'ils apprennent pas à jouer, en fait.
Allez, vous venez !
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes en forme ?
Oui.
Oui. Oui. C'est quoi la règle d'or ?
Ne pas faire mal aux copains.
Je ne me fais pas mal et je ne fais pas mal aux copains. Donc, allez, c'est parti, et moi je touche. Allez, Raphaël, va te toucher. Non, touche à une main. Essaye. Allez, vite.
Oui.
À deux mains, on touche.
Rappelle
en bas. C'est ma deuxième. Non.
Super, Morgane. Oui, à qui ?
Touchez.
On va aller voir ce qu'en pensent les parents au bord du terrain.
Pour des enfants aussi jeunes, c'est plutôt une bonne chose, histoire d'éviter les accidents.
Votre petit, là, il commence le rugby cette année ?
C'est sa deuxième année.
Et vous n'avez pas eu peur de le remettre, du coup ?
Non, pas spécialement. Je pense que l'équipe est attentive. Et je pense que ça lui plaît, en tout cas. J'ai pas besoin d'assister pour qu'il vienne, donc à mon avis.
On touche à deux mains. On n'attrape pas par le chasuble.
Vous êtes la maman d'un des enfants, là ?
Tout à fait, oui.
Je vous vois attentif aussi, là, à suivre depuis le début la séance d'entraînement. Vous êtes le papa d'un des...
Je suis le papa d'Ewan. C'est sa première année à Ewan. Donc après, on vient de Bretagne, donc on suit le RCV.
L'RCVAN.
Ouais, c'est ça. Donc je l'ai emmené 2-3 fois voir les matchs. Donc c'est comme ça qu'il a pris goût à aller regarder le rugby. Et puis cette année, en passant devant le stand pendant la porte ouverte des associations, il a demandé à pratiquer le rugby cette année. Donc...
Vous avez hésité à lui accorder...
Du tout. Après, c'est comme toute pratique. Il faut savoir pratiquer le sport sans forcément avoir regardé les mauvais côtés. Après, un sport collectif, il se développe avec les copains. Le samedi, ils viennent jouer, ils partent tous en bus, suivant les rencontres qu'ils ont. Donc voilà, ils sont super contents. Ils s'amusent, en fait. Ils sont contents de venir au rugby. Donc,
Rugby à toucher, ça vous plaît qu'on commence par là, par les bases, apprendre le jeu d'évitement ?
Voilà, c'est comme tout sport. Je sais que nous, par exemple, on l'a habitué dès le départ avec le protège-dents, le casque. Faut équiper aussi ses enfants pour être limiter les problématiques. Donc ça se passe pas trop mal.
Deux mains en tout.
Pourquoi tu as choisi de faire du rugby, Ewan ?
parce que on peut courir et puis en plus la balle elle est bien. Et aussi j'aime bien quand on marque des essais.
Et il paraît que tu connais une chanson. Tu connais déjà des chansons de rugby? C'est ton papa qui m'a dit ça tout à l'heure.
Oui.
C'est quoi alors?
Ici c'est la ravine. Ici c'est la ravine.
Bon match Andy.
Merci. Ouais.
Adrien, tu as quel âge?
6 ans.
Pourquoi tu as choisi le rugby?
Parce que j'aime bien, il y a de la rapidité, j'aime bien.
Morgane, attends-moi quand même.
J'aime bien quand on court et j'aime bien le sport. Parce que mon frère, des fois on fait un peu, on a des petites balles en mousse et il me demande de faire un peu de match et on en fait. Et il est fort, donc j'essaie de faire sport. Qui a des ballons.
Tu as quel âge, Hakim ?
6 ans. Ça me plaît de courir, de marcher et tout. J'adore.
De faire des passes avec tes amis aussi ?
Oui, j'aime pas les plaquages. Parce que ça me fait mal et j'aime pas ça.
Bah, bon match.
Merci.
Au revoir, Hakim. À samedi.
C'était Commotion, le casse-tête du rugby français. Un reportage de Fanny Lechevestrier, prise de son Frédéric Quéroux et Valérie André de France Bleu Occitanie. Réalisation Stéphane Combe, mixage Florent Beauvalet.
Tu lances bien ton ballon à la verticale et tu le rattrapes.
À la semaine prochaine.
Allez, vous pouvez reposer votre ballon.
C'est quoi cette petite balle à faire là?
Chut,
mais
allez, Raphaël, Ivan.